Chapitre 1. L'agir conscient de l'être humain. L'être humain est-il dans son penser et son agir un être spirituellement libre ou est-il placé sous le joug de la nécessité d'airain, de pure loi naturelle? Il est peu de questions auxquelles on est appliqué autant de sagacité qu'à celle-ci. L'idée de la liberté de la volonté humaine a trouvé en grand nombre de chauds partisans, tout autant que des adversaires acharnés. Il y a des gens qui, dans leur pathos moral, déclarent borner tout esprit capable de nier un fait aussi patent que la liberté. À cela s'en opposent d'autres qui considèrent comme le sommet de l'attitude non scientifique que quelqu'un croit interrompu dans le domaine de l'agir et du penser humain, la légalité de la nature. Une seule et même chose est ici décrétée, tout aussi souvent être le bien le plus précieux de l'humanité que la pire des illusions. Une infinie subtilité a été déployée pour expliquer comment la liberté humaine est conciliable avec l'agir dans la nature, dont pourtant l'être humain fait aussi partie. Non moindre est la peine avec laquelle il fut tenté par d'autres penseurs de rendre compréhensible le fait qu'ait pu naître une idée aussi insensée. Que l'on ait ici affaire à une des questions les plus importantes de la vie, de la religion, de la pratique et de la science, c'est ce que sent tout homme qui n'a pas pour trait marquant de son caractère le contraire de la profondeur. Et c'est l'un des signes attristants de la superficialité du penser actuel qu'un livre qui prétend forger avec les résultats de la recherche scientifique moderne une « nouvelle foi » entre guillemets, ne contiennent sur cette question que les mots suivants. Nous n'avons pas à nous occuper ici de la question de la liberté, de la volonté humaine. La prétendue liberté d'indifférence a toujours été reconnue comme un fantôme inconsistant par toute philosophie digne de ce nom. Mais la détermination de la valeur morale des actions et des dispositions humaines reste en dehors du champ de cette question. David Friedrich Strauss, Der Alte und die Neue Glaube, la foi ancienne et la foi nouvelle, Leipzig, 1872. Ce n'est pas parce que je crois que le livre où se trouve ce passage a une importance particulière que je le cite ici, mais parce que celui-ci me semble exprimer l'opinion jusqu'à laquelle est capable de se hausser dans l'affaire en question le plus grand nombre de nos penseurs contemporains. Que la liberté ne puisse pas consister dans le fait de choisir tout à fait arbitrairement l'une ou l'autre de deux actions possibles, c'est ce que semble aujourd'hui savoir toute personne qui prétend être sortie de l'enfance en matière scientifique. Il existe toujours, affirme-t-on, un motif tout à fait précis pour lequel, parmi plusieurs actions possibles, on amène à sa réalisation précisément telle action particulière. Cela semble évident. Cependant, les attaques principales des adversaires de la liberté ne se dirigent jusqu'à aujourd'hui que contre la liberté de choix. Herbert Spencer, qui vit dans des manières de voir qui se répandent chaque jour plus largement, dit en effet « Mais que chacun ait la liberté de désirer ou de ne pas désirer, ce qui est la proposition réelle impliquée dans le dogme du libre arbitre, c'est ce qui est en désaccord avec la perception interne de chacun, aussi bien qu'avec le contenu des précédents chapitres. » Herbert Spencer, Principes de psychologie, 1873. D'autres auteurs partent du même point de vue lorsqu'ils contestent le concept de volonté libre. Tous les développements à ce sujet se trouvent déjà en germe chez Spinoza. Ces arguments clairs et simples contre l'idée de liberté ont été repris depuis un nombre incalculable de fois, enveloppés seulement la plupart du temps dans les doctrines théoriques les plus alambiquées, ce qui rend difficile de déceler le très simple cheminement de pensée qui est tout ce qui importe. Spinoza écrit dans une lettre d'octobre ou novembre 1674 « J'appelle libre, quant à moi, une chose qui est et agit par la seule nécessité de sa nature. Contrainte, celle qui est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Dieu, par exemple, existe librement, bien que nécessairement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même aussi, Dieu se connaît lui-même librement, parce qu'il existe par la seule nécessité de sa nature. De même aussi, Dieu se connaît lui-même et connaît toutes choses librement, parce qu'il suit de la seule nécessité de sa nature que Dieu connaisse toutes choses. Vous le voyez bien, je ne fais pas consister la liberté dans un libre décret, mais dans une libre nécessité. Mais descendons aux choses créées qui sont toutes déterminées par des causes extérieures à exister et à agir d'une certaine façon déterminée. Pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple. Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. Et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement, et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre, et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder, et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leur appétit et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement appéter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et si les poltrons, vouloir fuir. Un ivrogne croit dire que par un libre décret de son âme, ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément. Bien qu'en effet l'expérience enseigne plus que suffisamment que s'il est une chose dont les hommes soient peu capables, c'est de régler leurs appétits, et bien qu'ils constatent que partagés entre deux affections contraires, souvent ils voient le meilleur et font le pire, ils croient cependant qu'ils sont libres, et cela parce qu'il y a certaines choses n'excitant en eux qu'un appétit léger, aisément maîtrisé par le souvenir, fréquemment rappelé, de quelque autre chose. Spinoza, lettre à Schuller. Comme on en a une opinion présentée de façon claire et précise, il est facile de mettre en évidence l'erreur fondamentale qui y est incluse. Aussi nécessairement qu'une pierre accomplit un certain déplacement sous l'effet d'un choc, tout aussi nécessairement l'être humain est censé accomplir une action lorsqu'il y est poussé par un motif quelconque. C'est seulement parce que l'être humain a conscience de son action qu'il se tient pour l'auteur libre de celle-ci. Mais il néglige alors, selon Spinoza, le fait qu'une cause l'y pousse, à laquelle il doit absolument obéir. L'erreur qui se trouve dans cette démarche de pensée est bientôt trouvée. Spinoza, et tous ceux qui pensent comme lui, néglige le fait que l'être humain non seulement a conscience de ses actions, mais qu'il peut aussi avoir conscience des causes par lesquelles il est guidé. Personne ne contestera que l'enfant est non libre lorsqu'il appète son lait, que l'ivrogne l'est lorsqu'il dit des choses dont il se repent plus tard. L'un et l'autre ne savent rien des causes qui sont à l'œuvre dans les profondeurs de leur organisme et sous la contrainte irrésistible desquelles ils sont placés. Est-il toutefois justifié de mettre des actions de cet ordre dans le même sac que celle où l'être humain est conscient non seulement de son agir, mais aussi des raisons qui le déterminent. Les actions des hommes ne sont-elles donc que d'une seule sorte? Est-on en droit de placer scientifiquement l'acte du guerrier sur le champ de bataille, du chercheur dans son laboratoire, de l'homme d'État dans des questions diplomatiques complexes sur le même plan que celui de l'enfant qui appête son lait? Il est certes vrai que le mieux pour résoudre un problème, c'est de le tenter là où la chose est la plus simple. Mais souvent déjà, le manque de discernement a créé une confusion sans fin. Et cela fait tout de même une énorme différence si je sais pourquoi je fais quelque chose ou si ce n'est pas le cas. Ceci semble tout d'abord être une vérité absolument évidente. Et il n'est pourtant jamais demandé par les adversaires de la liberté si un motif de mon agir que je reconnais et vois en toute clarté signifie pour moi une contrainte au même sens que le processus organique qui détermine l'enfant à pleurer pour avoir son lait. Edouard von Hartmann affirme dans sa phénoménologie de la conscience morale que le vouloir humain dépend de deux facteurs principaux, les motifs et le caractère. Si l'on considère tous les hommes comme semblables, ou à tout le moins les différences entre eux comme insignifiantes, leur vouloir semble déterminé de l'extérieur, à savoir par les circonstances qui se présentent à eux. Mais si l'on tient compte du fait que des personnes différentes ne font d'une représentation un motif de leur agir que si leur caractère est tel qu'il est incité à une appétence par la représentation correspondante, l'être humain apparaît déterminé de l'intérieur et non de l'extérieur. Or, l'être humain croit que, parce qu'il lui faut, conformément à son caractère, transformer en motif d'action une représentation qui lui est imposée de l'extérieur, il est libre, c'est-à-dire indépendant des motifs d'action extérieurs. Mais selon Edouard von Hartmann, la vérité est que, même si c'est nous-mêmes qui élevons les représentations au niveau de motifs, nous ne le faisons toutefois pas arbitrairement, mais selon la nécessité de nos dispositions de caractère, donc rien moins que librement. Edouard von Hartmann, Phénoménologie des Sittlichen Bewusstseins, 1879. Ici encore, il n'est tenu absolument aucun compte de la différence qui existe entre des motifs que je ne laisse agir sur moi qu'après les avoir pénétrés de ma conscience et ceux auxquels j'obéis sans en posséder un savoir clair. Et ceci conduit directement au point de vue à partir duquel il faut que soit ici considérée la chose. Est-on d'une manière générale en droit de poser la question de la liberté, de notre volonté, unilatéralement pour elle-même? Et si ce n'est pas le cas, à quel autre doit-elle être nécessairement liée? S'il existe une différence entre un motif conscient de mon agir et une pulsion inconsciente, alors le premier entraînera aussi une action qui doit être jugée autrement qu'une action accomplie sous l'effet d'une poussée aveugle. La question de cette différence sera donc la première. Et de ce qu'elle donnera comme résultat dépendra alors la façon dont nous aurons à nous situer par rapport à la question de la liberté proprement dite. Que signifie avoir un savoir des motifs de son agir? On a trop peu pris en considération cette question, parce qu'on a malheureusement déchiré en deux parties ce qui est un tout indivisible, l'être humain. On a distingué l'homme agissant et l'homme connaissant, et seul s'est alors retrouvé les mains vides celui qui importe avant tout, celui qui agit à partir de la connaissance. On dit que l'être humain est libre quand il est uniquement régi par sa raison et non par ses désirs de nature animale, ou encore que la liberté signifie pouvoir déterminer sa vie et son agir d'après des fins et des décisions. Avec des affirmations de ce genre, on n'a absolument pas avancé. Car toute la question est précisément de savoir s'il a raison, si des fins et des décisions exercent sur l'être humain une contrainte de la même manière que les désirs de nature animale. Si une décision raisonnable surgit en moi, sans que j'y sois pour quelque chose, exactement avec la même nécessité que la faim et la soif, alors je ne peux y donner suite que contraint et forcé, et ma liberté est une illusion. Une autre formulation est la suivante. Être libre ne signifie pas pouvoir vouloir ce que l'on veut, mais pouvoir faire ce que l'on veut. Le poète philosophe Robert Hamerlin a caractérisé cette pensée en termes d'une netteté cristalline dans son Atomistique de la volonté. L'être humain peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut, parce que sa volonté est déterminée par des motifs. Il ne peut pas vouloir ce qu'il veut ? Que l'on regarde donc ces mots de plus près. Y a-t-il là-dedans un sens digne de ce nom ? La liberté du vouloir devrait ainsi consister en ce que l'on puisse vouloir quelque chose sans raison, sans motif. Mais que signifie donc vouloir, sinon avoir une raison de faire ou d'aspirer à faire ceci de préférence à cela ? Vouloir quelque chose sans raison, sans motif, signifierait vouloir quelque chose sans le vouloir. Au concept de vouloir est indissolublement lié celui de motif. Sans motif qui détermine, la volonté est une faculté vide. C'est seulement par le motif qu'elle devient agissante et réelle. Il est donc absolument exact que la volonté humaine n'est pas libre, en ce sens que sa direction est toujours déterminée par le motif le plus fort. Mais il faut reconnaître d'un autre côté qu'il est absurde de parler face à cette non-liberté, d'une liberté pensable de la volonté qui conduirait à ce que l'on puisse vouloir ce que l'on ne veut pas. Robert Hamerlin, Atomistik der Willens, 1891. Ici aussi, il n'est question que de motifs en général, sans que soit prise en considération la différence entre les motifs conscients et les motifs inconscients. Quand un motif agit sur moi et que je suis contraint de m'y conformer parce qu'il s'avère être, entre guillemets, le plus fort parmi ses pareils, alors la pensée de la liberté cesse d'avoir un sens. En quoi cela aurait-il un sens pour moi de pouvoir faire quelque chose ou non si je suis contraint par le motif de le faire ? Ce qui importe tout d'abord n'est pas de savoir si, lorsque le motif a agi sur moi, je peux faire quelque chose ou non, mais s'il n'existe que des motifs qui agissent avec une nécessité contraignante. Si je suis obligé, par exemple, de vouloir quelque chose, alors il peut être éventuellement absolument indifférent pour moi de pouvoir aussi le faire. Si en raison de mon caractère et des circonstances régnant dans ce qui m'entoure, m'est imposé un motif qui s'avère être déraisonnable au regard de mon pensée, je devrais même m'estimer heureux de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Ce qui importe n'est pas que je puisse amener à sa réalisation une décision que j'ai prise, mais comment la décision naît en moi. Ce qui distingue l'homme de tous les autres organismes repose sur son pensée rationnelle. Il a en commun avec d'autres organismes d'être actif. Cela n'avance à rien de chercher, afin d'élucider le concept de liberté pour l'agir de l'homme, des analogies dans le règne animal. La science moderne de la nature aime ce genre d'analogie. Et lorsqu'elle a réussi à trouver chez les animaux quelque chose de semblable au comportement humain, elle croit avoir touché au problème le plus important de la science de l'homme. À quelles erreurs de compréhension conduit cette opinion, apparaît par exemple dans le livre « L'illusion de la liberté de la volonté » de Paul Rey, qui au sujet de la liberté écrit ceci. Le fait qu'il nous semble que le mouvement de la pierre est nécessaire et que le vouloir de l'âme n'est pas nécessaire est facilement explicable. En effet, les causes qui meuvent la pierre sont extérieures et visibles. En revanche, les causes en fonction desquelles l'âme veut sont internes et invisibles. Entre nous et le lieu où elles agissent se trouve le crâne de l'âne. On ne voit pas la détermination causale et on pense pour cette raison qu'elle n'existe pas. On explique que le vouloir est certes cause que l'âme se retourne, mais qu'il est lui-même sans limitation. Ce serait donc un commandement absolu. Ici aussi, on néglige donc, tout simplement, une fois de plus, les actions de l'homme où il a conscience des raisons de son agir, car Ré déclare « Entre nous et le lieu où elles agissent se trouve le crâne de l'âne ». Qu'il existe non pas certes des actions de l'âne, mais bien des actions des hommes, où entre nous et l'action se trouve le motif devenu conscient, Ré, comme on peut le déduire de ses propres termes, n'en a pas la moindre idée. Il le prouve de plus quelques pages plus loin par ces mots. Nous ne percevons pas les causes par lesquelles notre vouloir est déterminé. C'est pourquoi nous croyons qu'il n'est tout simplement pas déterminé de manière causale. Paul Ré, Die Illusion der Willensfreiheit, 1885. Mais trêve d'exemples qui prouvent que beaucoup de gens combattent la liberté sans savoir le moindrement ce qu'est la liberté. Que ne puisse être libre une action dont son auteur ne sait pas pourquoi il l'accomplit est tout à fait évident. Mais qu'en est-il de celle dont on connaît les motifs ? Ceci nous amène à la question : quelle est l'origine et la signification du penser ? Car sans la connaissance de l'activité pensante de l'âme, un concept du savoir de quelque chose, donc aussi du savoir d'une action, n'est pas possible. Lorsque nous aurons une connaissance de ce que signifie d'une façon générale « penser », alors il sera également facile de se mettre au clair sur le rôle que joue le penser dans l'agir humain. C'est seulement le penser qui fait un esprit de l'âme, dont l'animal est doué, lui aussi, dit Hegel à juste titre, et c'est pourquoi le penser donnera aussi à l'agir humain la marque qui lui est propre. Il ne s'agit nullement d'affirmer que tout notre agir découle seulement de la réflexion objective de notre entendement. Bien loin de moi l'idée de ne représenter comme humaine au plus haut point que les actions qui procèdent du jugement abstrait. Mais dès que notre agir s'élève au-dessus du domaine de la satisfaction de désirs de nature purement animale, nos motifs sont toujours mêlés de pensées. L'amour, la piété, le patriotisme sont des mobiles d'action qui ne se déduisent pas à de froids concepts issus de l'entendement. On dit que le cœur, la sensibilité, revendiquent ici leurs droits. Sans aucun doute. Mais le cœur et la sensibilité ne créent pas les motifs de l'agir. Ils présupposent ceux-ci et les intègrent à leur domaine. La piété se manifeste en mon cœur lorsque la représentation d'une personne qui suscite la piété est apparue à ma conscience. Le chemin du cœur passe par la tête. Même l'amour n'y fait pas exception. Quand il n'est pas la simple expression de l'instinct sexuel, il repose sur les représentations que nous nous faisons de l'être aimé. Et plus les représentations sont idéalistes, plus l'amour apporte de félicité. Ici aussi, c'est la pensée qui crée le sentiment. On dit que l'amour rend aveugle aux faiblesses de l'être aimé. On peut prendre la chose par l'autre bout et affirmer « l'amour ouvre précisément les yeux à ses qualités ». Bien des gens n'ont pas la moindre idée de ses qualités et passent sans les remarquer. Une personne les voit et c'est justement pour cette raison que l'amour s'éveille en son âme. Qu'a-t-elle fait d'autre que se faire une représentation de ce dont cent autres personnes n'en ont point ? Ils n'ont point l'amour parce qu'il leur manque la représentation. Que nous prenions la chose par un bout ou par un autre, il faut qu'il devienne de plus en plus clair que la question de l'essence de l'agir humain présuppose l'autre question, celle de l'origine du penser. C'est pourquoi je vais tout d'abord me consacrer à cette question.